Sotrevoix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Bonjour, aujourd'hui pour les autres voix de la presse, nous recevons Sophie Brandel. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors Sophie, vous êtes responsable du développement international et du plaidoyer pour Cartooning for Peace. Aujourd'hui donc, si on est ensemble, c'est pour parler du rapport Sous Pression, un rapport sur la situation des dessinateurs et dessinatrices de presse menacés dans le monde. Tout d'abord, pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que vous pourriez présenter un petit peu Cartooning for Peace ?
Oui, bien sûr. Alors, Cartooning for Peace est une association loi 1901 qui est basée à Paris. C'est un réseau international de dessinateurs de presse qui compte donc 374 dessinateurs de presse de 79 pays. Et c'est un réseau de dessinateurs qui a pour mandat de promouvoir les valeurs démocratiques et les droits humains à travers le dessin de presse. Pour la petite histoire, Cartooning for Peace a été créé en 2006 et cela fait suite en fait à aux violences qui avaient eu lieu à travers le monde à la suite de la publication de caricatures de Mahomet dans le journal danois le Jyllands-Posten. À la suite de ces violences, le dessinateur de presse français Plantu du Monde et Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU, s'étaient réunis à New York et avaient lancé une conférence inaugurale sur « Désapprendre l'intolérance ». Et de là est né Cartooning for Peace, qui aujourd'hui donc a pour mandat de promouvoir les droits humains, les valeurs démocratiques, à travers le dessin de presse.
Donc là, vous publiez ce rapport qui est donc de 2023 à 2025 sur les menaces qui pèsent justement sur les dessinateurs et dessinatrices. C'est votre activité principale. Qu'est-ce que vous faites un peu au quotidien avec Cartooning for Peace ?
Alors, le soutien aux dessinateurs menacés est au cœur du mandat de Cartooning depuis ses débuts. Et c'est une activité parmi d'autres. Donc là, je peux vous présenter les trois activités principales en quelques mots. Cartooning for Peace a une action éditoriale avec des partenariats médias, notamment avec Le Monde, France 24 et d'autres, où on va publier des dessins de presse des dessinateurs du réseau pour promouvoir le dessin de presse dans l'espace public à travers ces partenariats médias. On organise aussi des expositions de dessins de presse auprès du grand public, auprès de différents publics aussi plus ciblés. Et on a aussi une action pédagogique, un pôle pédagogique qui va intervenir en milieu scolaire, en particulier en France, en déployant une méthodologie propre à Cartooning for Peace, qui est une méthodologie par le dessin de presse pour promouvoir le débat auprès des élèves, les valeurs démocratiques sur différents sujets. On apporte la composante dessin de presse pour parler de thématiques en lien avec les droits humains et les valeurs démocratiques. Et donc, l'action de plaidoyer est la troisième composante. On fait une veille quotidienne en fait des cas de menaces pesant sur les dessinateurs de presse avec nos partenaires et en particulier Cartoonist Rights. Une veille quotidienne qui en fait est faite à partir de sources ouvertes, d'abord des sources ouvertes en ligne et puis aussi des cas qui nous sont remontés à la fois par des partenaires et ou des dessinateurs qui nous contactent directement parce qu'ils sont menacés.
Donc là, le rapport qui vient de paraître, justement, c'est une compilation un peu de tous ces cas, de toutes ces menaces que vous avez recensées depuis 2023.
Oui, en fait, c'est la troisième édition d'un rapport qui recense les cas de dessinateurs menacés. La deuxième édition en partenariat avec Cartoonist Rights, qui est une ONG basée aux États-Unis. Et en fait, là, on se base sur la veille quotidienne qu'on effectue, donc sur une période de 2 ans. Donc là, de juin 2023 à juin 2025, on a recensé 87 cas de menaces. Et cette année, en fait, on a établi une sorte de typologie des menaces pour clarifier notre recensement. Et ce qui ressort, en fait, de cette typologie, de ce travail, c'est que là, il y a une prépondérance en fait des poursuites judiciaires et des cas de censure, puisque sur la période, on aura recensé 22 cas de poursuites judiciaires, alors abusives, visant les dessinateurs dans une démarche de criminalisation visant à les faire taire, et aussi des 14 cas de censure. Après, il y a d'autres cas, ça peut être des détentions provisoires, des traitements inhumains ou dégradants, des cas de censure en ligne, et aussi des menaces de mort.
Dans ces 87 menaces, c'est au niveau international, au niveau européen, au niveau français ?
Oui, alors c'est merci de votre précision, mais c'est bien au niveau international qu'on intervient. Donc ces cas proviennent du monde entier. Ce n'est pas un recensement exhaustif par définition, puisqu'il y a des situations qui peuvent nous échapper. Il y a aussi des pays dans lesquels le système est tellement verrouillé que finalement on n'aura pas de cas de menace. Donc tous les pays ne sont pas répertoriés dans cette liste, mais finalement s'adresse quand même un état des lieux au niveau mondial de l'état de la liberté d'expression à partir de la situation des dessinateurs de presse menacés.
Ce que vous indiquez au début, dans les premières pages du rapport, justement, c'est qu'actuellement, on est quand même face à deux situations. Il y a énormément de contextes de guerre et également la montée des régimes autoritaires, deux situations qui, justement, pourvoient un petit peu ces attaques, favorisent ces attaques à l'encontre des dessinateurs et dessinatrices.
Oui, tout à fait. Alors évidemment, on mentionne les cas de guerre et qui sont particulièrement dramatiques pour les dessinateurs, les journalistes. Donc évidemment, dans ce topo, il y a la situation à Gaza avec les plus de 200 journalistes morts et tués par l'armée israélienne recensée par Reporters sans frontières et notamment donc une dessinatrice de presse palestinienne qui a été tuée en 2024. Mahassen Al-Kateb. Évidemment, il y a d'autres zones de conflit hein, où des dessinateurs peuvent être touchés. Vous mentionnez la montée des régimes autoritaires. Alors évidemment, ça, c'est vraiment ce que met en avant le rapport et une tendance très inquiétante avec le déclin, le recul mondial des valeurs démocratiques et la montée des régimes autoritaires avec des tendances en fait qui se confirment. Et là, je pense à la Turquie et à l'Inde en particulier, qui sont des régimes très autoritaires et qui ciblent de plus en plus les médias et les journalistes. On a vraiment des cas emblématiques dans ces deux pays. Alors en Turquie, on pense au magazine satirique Leman, qui récemment a été visé par le pouvoir avec plusieurs membres de sa rédaction, un dessinateur de presse interpellé, placé en détention provisoire et maintenant libéré sous contrôle judiciaire, mais en attente d'un procès. Donc on a le sentiment que ce magazine satirique Leman ne pourra plus jamais voir le jour, il a été fermé. Et en Inde, on voit aussi des dérives très inquiétantes avec une censure en ligne où les plateformes elles-mêmes jouent le jeu en fait des autorités indiennes hein, qui viennent censurer, demander le retrait de tous les dessins qui sont critiques vis-à-vis du pouvoir ou qui représentent le Premier ministre Modi et critiquent sa politique. Donc il y a vraiment plusieurs cas de dessinateurs qui ont été victimes de cette dérive autoritaire. Et donc on a aussi évidemment, le cas emblématique de ce rapport et l'élément nouveau très inquiétant, c'est évidemment la bascule des États-Unis, puisque l'introduction du rapport commence par évoquer cette situation qui nous inquiète tous, puisque du coup, on voit des pratiques dignes des pires dictatures au sein des États-Unis, avec l'administration Trump, en fait, qui vise des médias, qui attaque la presse, qui demande des retraits de dessins dans des expositions parce que ça ne suit pas le narratif de la Maison Blanche sur l'histoire des États-Unis. Donc on a le cas du dessin de Fego, qui est un dessinateur américain mais d'origine mexicaine, donc un dessin qui juste illustre le rêve américain et les Mexicains qui regardent la frontière américaine. Alors ce dessin ne plaît pas à Trump, donc il a explicitement communiqué via un communiqué de la Maison Blanche en fait qui demandait son retrait dans le cadre d'une exposition qui entre-temps a fermé. Donc voilà des phénomènes vraiment très inquiétants et évidemment qui ont été illustrés par la démission de la dessinatrice américaine Anne Telnaes du Washington Post en janvier 2025. Où elle a quitté le journal après que l'un de ses dessins ait été refusé par la rédaction parce qu'il critiquait en fait le propriétaire du journal Jeff Bezos pour son allégeance à Trump. Donc là, c'était déjà précurseur de la censure qui n'allait faire que se déployer ensuite et se développer aux États-Unis, si bien que dans notre rapport, les contributeurs, que ce soit Patrick Chapat, dessinateur de presse, ou Julie Trébeau de Artist at Risk Connection, dénonce un climat de peur aux États-Unis. Et donc ça, c'est vraiment l'élément, l'élément marquant évidemment sur ces deux dernières années, l'évolution de la démocratie américaine et son évolution, vers un régime autoritaire qui pratique la censure. Donc c'est très inquiétant évidemment à l'échelle européenne et mondiale évidemment.
On parle de censure, on a également évoqué les procès. Nous avons reçu pour les autres voix de la presse Sophie Lemaître il y a peu de temps à propos de son livre « Réduire au silence », donc où il y a énormément d'exemples de procès Bayon, entre autres, on dit aussi c'est les procédures SLAPP que vous mentionnez dans le rapport. Est-ce qu'en France, les dessinateurs, dessinatrices sont touchés justement par ces procès Bayon, ces procès abusifs? On voit qu'il y a beaucoup de médias indépendants de plus en plus qui sont justement en procès. Est-ce que ça concerne également les dessinateurs et dessinatrices?
Alors, c'est susceptible de les concerner. C'est vrai que nous, sur la période en France, on n'a pas connaissance d'une telle procédure visant un dessinateur de presse en France. Cela ne veut pas dire que cette procédure n'existe pas, mais a priori, enfin, en tout cas, on n'en a pas connaissance. Et même sur la période en Europe, évidemment, on identifie ces procédures abusives, SLAPP, comme des risques, comme pouvant survenir, puisque des journalistes peuvent être visés, des lanceurs d'alerte. Mais nous, on n'a pas à proprement parler de cas de procédure Bayon en fait identifiés au niveau européen. Mais par contre, évidemment, si on pourrait dire ce qui se passe par rapport à Lehman est une procédure Bayon, mais en tout cas, c'est une procédure abusive. Après, c'est plus une question de terminologie, puisque du coup, nous, dans notre rapport, on note beaucoup de procédures abusives visant à criminaliser les dessinateurs de presse qui ne remplissent pas forcément les critères cumulatifs de la procédure Bayon, mais qui ont l'effet et la volonté de vouloir faire taire le dessinateur et la critique vis-à-vis du pouvoir. Donc évidemment, le levier judiciaire est clairement une arme des régimes autoritaires pour faire taire les voix critiques. Et ça, on le voit contre les journalistes et contre les dessinateurs de presse. Ça, c'est vrai que c'est vraiment une grosse tendance mondiale qu'on a pu identifier à travers notre recensement.
Ces procès créent en effet un climat de peur et d'autocensure, comme vous le précisez également dans le rapport. Dans le rapport également, il y a une bonne partie qui concerne les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux où on voit que de plus en plus de dessinateurs et dessinatrices justement publient leurs illustrations. Et ces réseaux sociaux génèrent également énormément d'attaques, de menaces à l'encontre de ces dessinateurs et dessinatrices.
Oui, alors c'est une tendance qu'on avait déjà identifiée lors de notre précédent rapport en 2023, et on avait justement à cœur de pousser un peu plus loin l'analyse et de mener une recherche sur l'expérience en ligne des dessinateurs de presse. Donc c'est ce qu'on a fait au cours des deux dernières années par le biais d'une recherche en fait qui a consisté en un questionnaire qui a été diffusé auprès des dessinateurs dans le monde entier, et on a reçu 258 réponses de 72 pays, donc un panel assez intéressant. Et ce sont deux chercheurs, en fait, Alberto Godioli de l'université de Groningen, aux Pays-Bas, et Anna Pedradini, universitaire en Argentine, qui ont mené cette recherche. Et on a publié donc la synthèse de cette recherche dans notre rapport. Alors, ce qui en ressort est assez inquiétant. Bon, on savait que les réseaux sociaux, par le jeu de leurs algorithmes, etc., avaient plus tendance à valoriser les contenus haineux, les contenus violents, et donc, de toute façon, en termes d'espace de débat démocratique, c'était difficile. Mais ce que ce rapport vient confirmer, alors d'abord, c'est que les dessinateurs publient dans leur grande majorité en ligne. Donc 69% des dessinateurs qui ont participé publient leurs dessins en ligne. Ça s'inscrit, ça aussi, dans un contexte de raréfaction d'opportunités professionnelles dans les médias dits traditionnels. Et ce qui ressort, en fait, c'est qu'il y a près de la moitié des dessinateurs de presse qui ont vu un dessin retiré d'une plateforme. 53% des dessinateurs ont reçu des menaces, 75% ont reçu des insultes. Donc on voit qu'ils évoluent dans un environnement assez hostile. Et ce qui est intéressant, c'est que de voir dans tous ces cas de retrait, d'insultes, de menaces, le contenu politique
est souvent le premier motif invoqué, en fait. Et ça, c'est intéressant par rapport au retrait de dessin pour la modération, puisque la modération en ligne se fait souvent par le jeu des algorithmes. Elle est faite par intelligence artificielle en grande partie. Et comment est-ce que ce système peut apprécier le contenu politique d'un dessin pour en venir à le retirer? Donc, c'est assez inquiétant par rapport à la liberté d'expression des dessinateurs. Et donc, on a porté un certain nombre de recommandations dans ce rapport auprès des plateformes, 21 recommandations pour faire levier à la fois sur les modalités de modération, mais aussi sur un phénomène qu'on a aussi pu identifier, c'est qu'il y a près de 30% donc des dessinateurs qui soupçonnent leur gouvernement d'être à l'origine en fait de ce qui leur arrive en ligne. Et donc là, quand la censure est étatique, quand le gouvernement intervient, quid du rôle des plateformes en fait, qui le plus souvent font le jeu des dérives autoritaires, alors notamment en Inde, comment faire quand les États interviennent sur les réseaux, comment remédier à ce phénomène? Donc on adresse un certain nombre de recommandations, et dans les mois à venir, les années à venir sans doute, parce que ce sera sur le temps long, on va s'adresser aux plateformes pour essayer de peser sur tout ce qu'on a pu relever et qui dysfonctionne évidemment sérieusement, et ça concerne les dessinateurs, mais évidemment un public beaucoup plus large sur les réseaux sociaux.
Dans cette situation, justement, vous disiez que les dessinateurs, dessinatrices publient de plus souvent en ligne sur des plateformes. En effet, il y a de moins en moins, entre guillemets, de production de presse papier. Il y a aussi eu un recul de certains titres de la presse papier pour publier des caricatures, des satires, des illustrations. Il me semble que c'est le New York Times, si j'ai bonne mémoire, qui, il y a quelques années, justement, a décidé de ne plus travailler avec des caricaturistes. Est-ce que ces dessinateurs et dessinatrices, quand ils publient en ligne, est-ce qu'ils publient sur des plateformes, sur des médias en ligne, ou est-ce que justement même là ça devient compliqué de trouver des médias qui, même en ligne, qui vont publier leurs illustrations, leurs caricatures?
C'est une bonne question. Comme vous le mentionnez, effectivement, il y a l'exemple du New York Times et il y en a d'autres, donc des médias traditionnels. Après, les dessinateurs vont publier en ligne. Est-ce que dans des médias en ligne, est-ce que ça, c'est une tendance aussi à la baisse? Je n'aurai pas les chiffres, en fait, pour préciser ces données. Mais par contre, clairement, bah oui, les réseaux sociaux sont utilisés comme une alternative et des fois, les dessinateurs publient uniquement sur leur compte. Mais on a quand même des données dans la recherche, et là je suis en train de les chercher tandis que je vous parle parce que je n'ai plus les pourcentages en tête des principaux modes de communication, de publication des dessinateurs de presse, ce qui ressortait sur les habitudes de publication, ce qu'on a aussi listé, donc les principaux réseaux sociaux sur lesquels les dessinateurs publient à travers le monde. Il y a des variations et ça peut être intéressant. Et là après, ce qu'on a en fait comme principaux éditeurs, vous voyez les journaux à 58%, les organisations professionnelles de dessinateurs 47%, les magazines 46%. Mais c'est vrai que nos données ne précisent pas si c'est en ligne ou hors ligne, vous voyez, c'est traditionnel, mais voilà les données dont on dispose. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet pour les dessinateurs de presse. Alors, certains, évidemment, apprécient d'évoluer sur les réseaux sociaux, bien sûr, puisque ça donne un accès à une diffusion très importante, à un public élargi, donc ça rend visible le travail, et tous ne sont pas pareillement exposés à la censure, la menace. Donc en fonction de la ligne éditoriale, du type de dessin, l'expérience en ligne n'est pas la même. Mais disons qu'au niveau au niveau mondial, de ce qui ressort de cette étude, c'est quand même que les réseaux sociaux sont en grande partie un environnement assez hostile pour le dessin de presse, dont la fonction première est aussi d'apporter un regard critique sur l'actualité, sur le pouvoir en place, et de traiter de sujets de société. Et on voit que c'est très compliqué, notamment en lien avec une autre partie du rapport, mais qui traite de la polarisation du débat politique. Et évidemment, sur les réseaux sociaux, tout cela est exponentiel. Donc c'est assez compliqué pour les dessinateurs de presse.
Vous dites dites que justement, il y a cette polarisation des débats sociaux, qu'il y a des attaques de dessins qui sont jugées justement politiques. Il y a également donc des chiffres sur le rapport là que vous publiez sur les agressions misogynes. Donc, c'est-à-dire que les dessinatrices seraient beaucoup plus agressées en ligne que les dessinateurs.
Oui, alors ça, c'est vrai que on a ce pourcentage, dont 64% des femmes qui ont participé à cette enquête déclarent avoir été l'objet de commentaires misogynes. On retrouve ces données dans les recherches qui sont menées par des organisations de défense des journalistes ou plus largement sur les médias, hein, sur les femmes journalistes qui sont plus exposées. Donc ça, c'est vraiment un vrai sujet de fond pour les femmes dessinatrices qui sont par ailleurs sous-représentées dans la profession, hein, puisque du coup elles sont minoritaires dans la profession des dessinateurs de presse. Et du coup, on va porter la recommandation auprès des plateformes pour qu'elles mettent en conformité leur politique pratique de modération au respect des droits humains et qu'elles tiennent compte en fait de cette violence systémique, de ces insultes qui ciblent davantage les femmes en ligne. Donc il y a beaucoup à faire à ce niveau. Et évidemment, c'est difficile aussi d'agir pour faire levier, puisqu'on voit par ailleurs que par rapport aux femmes journalistes aussi, la prise en compte de la spécificité des violences dont elles peuvent être l'objet est un vaste terrain de lutte. Mais en tout cas, oui, le rapport aussi vise à mettre en lumière ce phénomène et à essayer de défendre une amélioration de la prise en compte de cette situation en ligne pour les dessinatrices de presse.
Comme vous le disiez, c'est une situation un petit peu là qui touche l'ensemble des pays de la planète. On a parlé des États-Unis d'Amérique du Nord, on a parlé de la Palestine de Gaza, on a brièvement parlé de la Turquie, mais vous abordez également la Chine, l'Afrique. Là également, les dessinateurs de presse sont menacés.
Il y a effectivement des contributions géographiques en fait dans notre rapport. La Chine est mentionnée dans le rapport, mais finalement, en fait, par rapport à ce pays, nous avons très peu, voire pas de cas recensés sur cette période, tout simplement parce que le système est tellement verrouillé, en fait, qu'il n'y a plus, enfin, à notre connaissance, de dessinateurs qui puissent dessiner librement en Chine. Alors, du coup, il y a le dessinateur chinois exilé Badou Chao en Australie, et qui, lui, en fait, est la cible de la répression transnationale menée par les autorités chinoises qui vont venir tenter d'interdire son exposition en Pologne, qui vont le cibler de menaces intempestives sur Internet, alors qu'un officiel chinois doit se rendre en Australie. Enfin, c'est de cet ordre-là. Enfin, voilà, il y a ce cas-là par rapport à la Chine. Et sur l'Afrique, en fait, oui, il y a aussi une contribution donc sur le continent africain. Et donc, il y a des dessinateurs qui mobilisent. Alors, il y a des exemples de dessinateurs de presse qui, sur le continent, mobilisent le dessin de presse à des fins militantes. En fait, ce sont des activistes qui vont dénoncer la corruption. Alors, je pense à Jimmy Spear, le dessinateur ougandais qui dénonce le régime d'Ouseveni, qui est à la croisée du dessinateur de presse et du défenseur des droits humains, et qui cible avec beaucoup de courage ce régime qui est d'une violence inouïe à l'encontre de ses opposants, et qui a été menacé pour ce travail, mais qui le poursuit néanmoins. Donc ça, c'est un exemple. Et puis, comme on mentionne les zones géographiques, j'avais à cœur de mentionner la situation de deux dessinateurs, un dessinateur égyptien, Ashraf Omar, qui a été interpellé en juillet 2024 et qui est en détention provisoire, mais tout à fait abusive depuis cette période-là, accusé de terrorisme, alors qu'il a publié un dessin critiquant la politique économique de l'Égypte dans un journal indépendant, Al-Manassar, et que depuis lors, en fait, il est du coup accusé des pires infractions et en détention provisoire, en toute arbitraire finalement, puisque c'est une tendance, vous voyez, de la criminalisation de porter des accusations très graves jusqu'à des accusations terroristes contre un dessinateur qui ne fait que dessiner. Et je voulais mentionner aussi le dessinateur saoudien Al-Azza, qui a été arrêté en 2018. Il dessinait pour un journal qatari. Il a été accusé en fait de dessiner pour l'ennemi parce que, enfin, je résume, mais
À l'époque, l'Arabie saoudite avait suspendu ses relations diplomatiques avec le Qatar, puis les relations ont été rétablies, mais toujours est-il que lui a été condamné à 6 ans de prison. Il devait sortir là, en 2025, et lors d'un procès secret, sa peine a été prolongée jusqu'à 23 ans de prison. Il y a un an, donc là, il est condamné à 23 ans de prison. Il est tenu au secret. Le procès n'a évidemment été secret, donc on n'avait pas accès au dossier, et tout cela en tout arbitraire, accusé aussi d'avoir publié des dessins qui insultent les autorités saoudiennes et dans un déni total de droit, dans une situation très critique. Donc il y a vraiment des dessinateurs qui sont en proie à l'absurde, en fait, le contributeur de ce chapitre géographique sur le Moyen-Orient, c'est Jonathan Daguerre de RSF, et il dit très bien dans son texte que là, au Moyen-Orient, c'est l'absurdité la plus totale. Vous voyez, on est dans une absence totale d'arguments rationnels, des procédures tout à fait arbitraires contre lesquelles il est très difficile de lutter parce qu'on n'a pas de levier face à ces régimes. C'est très difficile.
Et vous mentionnez aussi, donc, en ce qui concerne l'Europe, des meurtres de journalistes en Europe. Comment est-ce que l'Union européenne essaie de réagir? Est-ce qu'elle défend cette liberté de la presse, cette liberté d'illustration de la part des dessinateurs et dessinatrices?
Ben, nous mentionnions effectivement ces données concernant les journalistes parce que nous n'avions pas vraiment de cas. Ben, nous avions le cas évidemment de la Turquie, mais pas beaucoup de cas emblématiques en Europe sur la période. Mais comme les dessinateurs de presse sont des journalistes, évidemment, nous relayons les données concernant plus largement les médias et les journalistes. Il nous semble que dans l'Union européenne, que ces libertés sont défendues, elles sont garanties par le droit. On est quand même aussi plus largement au sein du Conseil de l'Europe avec la Cour européenne des droits de l'homme, dans un système en tout cas juridique en fait qui défend, qui garantit la liberté d'expression, avec une jurisprudence quand même très riche de la Cour européenne des droits de l'homme et des garanties et la promotion de l'état de droit. Donc dans ce sens-là, on est quand même dans un environnement où on peut avoir recours au droit et où le droit garantit ses libertés. Donc ça, c'est ce que j'ai envie de mettre en avant. Après, sur la situation des dessinateurs de presse, on a quand même une contribution d'ouverture du rapport de Riss, directeur de la publication de Charlie Hebdo et dessinateur, qui revient sur l'actualité de la menace 10 ans après les attentats contre Charlie Hebdo. On tenait à marquer cette date commémorative, et il est le premier donc à dire dans son texte qu'il est, alors, d'une part très difficile d'évaluer la menace pesant sur les dessinateurs de presse, mais que face à ce qu'on peut constater, tout dessinateur de presse peut à un moment donné faire l'objet de menaces et des menaces les plus graves. Et il cite en fait les menaces aussi qui ont lieu quotidiennement en ligne sur les réseaux sociaux. Et puis rappelle que certains membres de sa rédaction sont encore sous protection policière. Et on peut citer à cet égard les menaces de mort dont a été victime Coco pour un dessin sur Gaza il y a quelque temps, des menaces de mort en ligne. Donc nous, on ne cessera de rappeler que oui, on peut ne pas être d'accord avec un dessin. On peut dire qu'on ne le trouve pas à notre goût, qu'on ne le comprend pas, qu'on ne l'aime pas. Mais les menaces de mort, c'est tout simplement inadmissible. Et donc Riss rappelle en fait l'importance de porter plainte, en fait, de pas banaliser c'est ce qui a lieu en ligne. Et ça, c'est aussi ce qui ressort de notre rapport, de notre recherche, parce que sur la recherche en ligne, finalement, on voit que dans 70% des cas, les dessinateurs ne signalent pas les insultes, les menaces dont ils font l'objet. Bon, ça, c'est au niveau mondial, mais je pense qu'en France, ça doit aussi être le cas. Et le message, c'est aussi de dire qu'il ne faut pas banaliser ces insultes et ces menaces, et que quand elles relèvent de la loi pénale, il faut porter plainte. Parce qu'après, souvent, il n'y a pas de passage à l'acte, mais en fait, c'est inadmissible. Donc, il faudrait vraiment, évidemment, aussi que les plateformes s'attellent à supprimer ces contenus alors qu'elles les promeuvent. Donc, c'est vrai que là, on est dans un monde qui marche à l'envers, quoi, puisque finalement, les contenus qui promeuvent les valeurs démocratiques ne sont pas visibles, et les contenus menaçants et insultants sont mis en avant. Donc, tout est à refaire, quoi.
Nous arrivons au terme de l'émission. Donc, je rappelle, donc, Sophie, que vous êtes responsable du développement international et du plaidoyer pour Cartooning for Peace. Et donc là, notre entretien, ben, c'était à propos de la parution du rapport sur la situation des dessinateurs et dessinatrices de presse menacés dans le monde. Le rapport est disponible en ligne.
Oui, il est disponible en ligne, en français et en anglais. Et la recherche complète sur l'expérience en ligne des dessinateurs est aussi disponible en ligne sur un site dédié en anglais. Et vous avez le lien QR code et le lien sur notre rapport aussi, si vous voulez creuser sur ce qui est tout ce qui concerne la recherche.
Donc le site, c'est cartooningforpeace.org.
Oui, c'est bien ça.
Ben, je vous remercie pour votre disponibilité, puis pour ce rapport et tout le travail justement que vous faites pour nous tenir un peu informés et défendre cette liberté de la presse et cette liberté des dessinateurs et des dessinatrices. À très bientôt, merci beaucoup.
Merci, merci à vous.
C'était Les Hauts-Doigts de la Presse avec Sophie Brandel pour Cartooning for Peace. À la semaine prochaine, d'ici là.
On va s'interroger ton stylo.